RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 à Kiev.
RFI midi.
Nemo en peace.
Midi et demi à Paris, RFI midi, c'est parti, nous sommes ensemble pour deux heures. À la une de ce mardi 26 novembre, les craintes d'une nouvelle guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine au lendemain des annonces de Donald Trump à quelques semaines de son retour à la Maison-Blanche. Le président élu entend, dès ses premiers jours à Washington, augmenter les droits de douane sur les produits venant de Pékin. Le Canada et le Mexique sont également concernés. Nous sommes à Mexico et à Québec pour prendre la température sur place après ces mesures annoncées. Et en ligne avec Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. La suite de notre série sur 19 mois de guerre au Soudan, également après les femmes ciblées dans ce conflit entre les généraux Al-Burhan et Emeti. On parle d'un autre fléau des combats qui parfois tue plus que la guerre elle-même. La faim, les deux camps sont accusés de l'utiliser comme arme de guerre et l'aide humanitaire, elle, peine à arriver. Notre reporter Elliot Brachet s'est rendu dans un hôpital de la banlieue nord de Khartoum où la sous-nutrition est la première cause de décès.
Mes deux filles sont mortes de faim. La première de 12 ans, il y a 4 mois. La seconde d'un an et demi est morte il y a une semaine. Nous n'avons rien à manger.
La fin, l'autre front de la guerre au Soudan, deuxième des trois volets de reportage signé Elliot Brachet cette semaine. Avant cela, nous sommes en Europe, à l'heure où les doutes s'accélèrent autour de la guerre en Ukraine. La Russie se veut de plus en plus menaçante. Kiev et ses alliés européens craignent le retour de Donald Trump à Washington et de potentielles coupes dans les aides financières et militaires américaines. Une guerre qui a bouleversé de nombreuses opinions publiques en Europe. Nous serons à Berlin, où ce mardi sortent les mémoires d'Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande qui a rendu le pouvoir en décembre 2021, juste avant le déclenchement de la guerre, et certains regrettent un trop long règne.
Ich finde sie sehr sympathisch. Also ich glaube, sie hat schon so ein bisschen für Stabilität so gestanden.
Je la trouve très sympathique. Elle a été synonyme de stabilité et cela me manque un peu actuellement. Mais après coup, quand on pense qu'elle est restée 16 années au pouvoir, très peu de choses ont été faites. Et je trouve ça vraiment dommage.
Un reportage à Berlin dans quelques instants de Delphine Nerbollier. Vous avez le programme d'RFI Midi. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30 temps universel.
RFI Midi. L'Europe à midi.
Nouvelle nuit de terreur en Ukraine avec cette attaque de drones russes sans précédent depuis le début de la guerre. C'est ce qu'affirment les autorités du pays. Kiev, qui fait face à une pression militaire quotidienne de la part de Moscou et craint de perdre le soutien des alliés occidentaux avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une crainte, je vous le disais, partagée par les pays alliés de l'Ukraine. Bonjour Daniel Valo.
Oui, bonjour.
Envoyé spécial de RFI au Parlement européen à Strasbourg, dans l'est de la France, où l'on a débattu ce matin de l'aide à l'Ukraine.
Oui, le Parlement de Strasbourg qui doit voter ce jeudi sur une résolution de soutien à Kiev face à la Russie et face à la décision de la Russie de masser des soldats nord-coréens à la frontière. Les pays européens qui ne cachent pas leur inquiétude à la fois devant les moyens déployés par la Russie dans ce conflit et devant les difficultés de l'Ukraine sur le front. Pour la Commission européenne, devant ces périls, il faut que l'UE en fasse davantage. C'est ce qu'a dit ce matin devant les eurodéputés le commissaire à la justice, Didier Reinders.
Nous savons qu'actuellement, notre niveau d'assistance à l'Ukraine est insuffisant pour faire pencher la balance en sa faveur. Nous savons que la Russie peut compter sur le soutien de la Corée du Nord et de l'Iran, ainsi que sur l'aide apportée par la Chine. Et nous devons, quant à nous, renforcer notre aide à l'Ukraine.
Renforcer l'aide européenne, oui, mais Daniel, avec une incertitude majeure, celle apportée par la victoire de Donald Trump et son retour prochain à la Maison-Blanche.
Oui, dans l'hémicycle européen, certains députés ne cachent pas leur très vive inquiétude vis-à-vis d'un possible lâchage de l'Ukraine par les États-Unis. D'autres, en revanche, y voient une opportunité. C'est le cas à l'extrême droite, notamment au sein du groupe des Patriotes formé par le Rassemblement National Français et le Fidesz hongrois. Les Patriotes qui forment le troisième groupe du Parlement depuis les élections de juin dernier, ils se disent en faveur de la paix et donc de la négociation. Et à l'image de l'eurodéputé RN Jean-Paul Garot, ils accusent les Occidentaux d'avoir joué l'escalade militaire face à la Russie.
Aux États-Unis, un président à bout de souffle, désavoué par son peuple et à quelques semaines de la fin de son mandat,
pousse l'Occident à la confrontation générale en autorisant l'Ukraine à tirer des missiles longue portée sur le territoire russe. C'est une grave faute. Nous ne devons pas être les suiveurs d'une stratégie belliciste et encore moins les complices d'une surenchère qui ne mène qu'à la destruction.
Et des accusations relayées par le groupe des souverainistes formé par le parti allemand d'extrême droite AfD, qui appelle également à des négociations avec la Russie de Vladimir Poutine et qui présente l'accession de Donald Trump à la Maison-Blanche comme une victoire et comme une chance pour la paix. C'est une musique du renoncement que dénonce à gauche le socialiste français Raphaël Glucksmann.
Vous venez de nous dire qu'il nous faut à tout prix éviter l'escalade. Mais posez-vous la question. Qui suscite l'escalade, sinon Poutine, qui envoie des milliers de soldats nord-coréens sur le sol européen et des missiles balistiques sur Dniepro? Vous nous dites qu'après tout, sacrifier le Donbass ou la Crimée pour avoir la paix n'est pas si cher payé. Mais vous refusez obstinément de voir que la cible de Poutine n'est pas et n'a jamais été le Donbass ou la Crimée, que cela a toujours été et que c'est toujours l'Ukraine et l'Europe.
Raphaël Glucksmann qui dénonce la faiblesse de l'aide européenne et qui demande aux Européens de se préparer à l'arrivée de Donald Trump. « Nous serons seuls face à la guerre sur notre sol », pointe l'eurodéputé socialiste qui appelle à la formation d'une coalition de pays pour venir en aide à l'Ukraine. Et comme rien n'est simple au Parlement européen, c'est au sein du troisième groupe d'extrême droite qu'on a pu entendre les paroles les plus fortes en faveur de l'Ukraine et contre la Russie. Le groupe ECR de Giorgia Meloni avait en effet choisi comme premier orateur l'eurodéputé Riyard Kolz, membre d'un parti nationaliste letton très hostile à la Russie. Il a dénoncé dans son intervention l'esprit munichois de tous ceux qui estiment possible aujourd'hui de discuter avec la Russie et avec Vladimir Poutine.
Les explications de Daniel Valo, envoyé spécial de Radio France Internationale à Strasbourg, au Parlement européen.
RFI Midi, Berlin, 96.7 FM.
C'est peut-être la sortie littéraire de l'année en Allemagne. L'autobiographie d'Angela Merkel est disponible aujourd'hui dans les librairies du pays et un peu partout sur le continent européen. Des mémoires très attendues, d'autant que l'ancienne chancelière allemande s'est retirée de la vie publique en 2021 après plus de 16 années au pouvoir. En 3 ans, les bouleversements ont été profonds en Allemagne, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Et depuis, les Allemands portent un regard beaucoup plus critique sur les années Merkel. Reportage à Berlin, signé Delphine Nerbollier.
En Allemagne, rares sont les personnalités qui ont autant marqué la vie politique de ces dernières années qu'Angela Merkel. Évoquez son nom et vous aurez toute une série de commentaires, comme celui d'Eva, 65 ans, rencontrée sur le quai d'une gare.
Je trouve qu'elle a été trop longtemps au pouvoir. Elle ne pouvait plus s'adapter.
Chez les plus jeunes aussi, le nom d'Angela Merkel laisse peu indifférent. Ils n'ont quasiment connu qu'elle à la tête du pays, elle qui y a passé 16 années. Lotte avait 8 ans à l'arrivée au pouvoir de la chancelière et 25 quand elle a quitté la politique. Cela a laissé des traces chez cette jeune berlinoise.
Ich finde sie sehr sympathisch.
Je la trouve très sympathique. Elle a été synonyme de stabilité et cela me manque un peu actuellement. Mais après coup, quand on pense qu'elle est restée 16 années au pouvoir, très peu de choses ont été faites. Et je trouve ça vraiment dommage.
3 ans après son départ de la politique, preuve est en effet de constater que le regard porté sur l'ex-chancelière s'est modifié, et pas forcément dans le bon sens. En 2021, lorsqu'elle a raccroché les gants, Angela Merkel laissait un pays stable, en bonne forme économique et qui était salué pour avoir accueilli des centaines de milliers de réfugiés en 2015 et 2016. 3 ans plus tard, la guerre en Ukraine a révélé la trop grande dépendance du pays envers le gaz russe et modifié de fond en comble le modèle énergétique et économique du pays. L'Allemagne est en récession, l'immigration illégale devient un poids pour de nombreux citoyens et l'extrême droite progresse. Et Angela Merkel dans tout ça ? Elle est pointée du doigt par une bonne partie de la classe politique. Nous joignons Stefan Cornelius à Munich. Il est éditorialiste au journal Süddeutsche Zeitung et auteur d'une biographie de l'ex-chancelière.
Angela Merkel Angela Merkel a tout fait pour que l'Allemagne reste en dehors des crises du monde. Sur le principe, maman s'en occupe, tout va bien. Son plus grand échec est peut-être justement de ne pas avoir préparé l'avenir, d'avoir négligé la politique sécuritaire et de défense, de ne pas avoir préparé le pays à l'idée de ce que cela signifie de devoir prendre beaucoup plus de responsabilités. 16 années, c'est long pour rester au pouvoir. Si elle avait plus investi, pris plus de risques, elle ne serait pas restée si longtemps.
Dans ce contexte, le parti d'Angela Merkel, la CDU, tente depuis des mois de se distancer de son ancien mentor. Après des années passées au centre, le parti glisse de nouveau à droite et fait son autocritique des années Merkel sur les thèmes de l'immigration et de la Russie, par exemple. Cela pourrait lui réussir. Le nouveau patron de la CDU, Friedrich Merz, un ancien rival de la chancelière, a de bonnes chances de gagner les élections en février. La page Merkel serait alors définitivement tournée, selon Stefan Cornelius.
Es ist der Vergleich unterschiedlicher Typen.
On a deux styles complètement différents. Friedrich Merz est un homme politique classique pour la CDU, originaire de l'Ouest catholique de l'Allemagne, et il est nettement plus conservateur qu'Angela Merkel. Le livre de Merkel nous montre en revanche que son passé en RDA et son empreinte politique sont très très libéraux, presque de gauche écologique. Friedrich Merz est d'une toute autre trempe. Ce sera donc une autre époque.
En attendant, Angela Merkel, désormais à la retraite et très discrète, n'est pas complètement absente de la vie des Allemands. Elle vient de publier ses mémoires et est aussi devenue une figure de la vie culturelle, malgré elle.
Volle Kraft voraus! Wir schaffen das!
Certains cabaretistes se sont saisis de son image pour créer des spectacles et on trouve même une série de romans policiers traduits en plusieurs langues, dont le français, dans laquelle Miss Merkel joue les détectives. Son auteur, David Safier, dit avoir voulu combler le mystère qui entoure la vie privée de la chancelière.
Angela Merkel était un peu comme le temps autour de nous, toujours là. Sa vie privée, en revanche, c'était un vide merveilleux. Elle n'a pratiquement rien dit de sa vie privée, à part qu'elle aime faire de la pâtisserie, et c'est tout. Ce qui est bien, c'est que ce vide m'a donné la possibilité de développer mon imagination, et cela a rejoint celle de mes lecteurs. Les lecteurs disent « Mon Dieu, c'est exactement comme ça que je l'ai imaginé ». Certains disent espérer que son mariage est aussi solide que dans les romans.
Dans le dernier roman de David Safier, sorti il y a 2 semaines, Miss Merkel se rend chez un thérapeute pour faire le point sur ses 16 années au pouvoir. Un roman ludique et léger qui contraste avec les très sérieuses mémoires de la chancelière, les vraies cette fois, qui sortent ce mardi.
Delphine Nerbollier à Berlin pour RFI. L'Allemagne, où comme en France et plus généralement en Europe, le secteur de l'acier est en pleine crise. Les signaux sont de plus en plus inquiétants pour l'industrie. Les annonces de plans sociaux se multiplient. La filière sidérurgique en grande difficulté. Illustration d'abord en Allemagne, donc Nathanaël Vitron, où le géant ThyssenKrupp veut supprimer ou transférer 11 000 postes d'ici la fin de la décennie.
Oui, soit plus d'un tiers de ses effectifs. Un séisme qui confirme la mauvaise santé de l'industrie. Allemande. En France, c'est un autre géant du secteur, ArcelorMittal, qui menace de ne pas faire les travaux de décarbonation promis sur son site de Dunkerque. Le numéro 2 mondial de l'acier devait investir 1,8 milliard d'euros pour remplacer les hauts fourneaux historiques au charbon par des fours électriques. L'État français s'était engagé à mettre 850 millions d'euros sur la table. Mais avant d'investir, ArcelorMittal demande, exige même de Bruxelles, des garanties. Le groupe veut des mesures pour protéger l'acier européen face à ce qu'il appelle une concurrence extra-européenne déloyale. La nouvelle fait trembler à Dunkerque où l'acier fait vivre 1 habitant sur 5. Les sidérurgistes européens sont en fait pris en étau. D'un côté, la demande est en baisse du fait notamment de la crise du secteur automobile. De l'autre, le marché est saturé par l'acier bon marché venu de Chine, le tout poussant les prix vers le bas. Ajoutez-y un prix de l'énergie qui, lui, a explosé depuis la guerre en Ukraine et l'acier européen n'apparaît plus du tout compétitif.
RFI Midi.
Nemo en peace.
Midi 43 ici à Paris, l'Union européenne. On continue d'en parler. L'Union européenne et ses nombreuses réglementations. Bruxelles interdit par exemple l'importation de produits issus de la déforestation, le bois, les VA, mais aussi le cacao sont concernés. Alors en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, c'est toute la filière qui va devoir s'adapter aux règles imposées par l'Europe. Binta Diagne est allée à la rencontre de producteurs à Kossou, dans le centre du pays. Reportage.
On est venu à Kabousi. Le peu que nous avons récolté.
Machette à la main, Lazare Ambemou coupe d'énormes cabosses de cacao.
Quand le cacao est mûr, on récolte et puis c'est le fait de casser et puis retirer les fèves qui est écabossé.
Puis les fèves sont conservées à l'abri. Lazare forme un tas protégé par des feuilles de bananier. Cette méthode permet de fermenter le cacao. Cela prend en moyenne une semaine. Comme près d'un million de planteurs de cacao, Lazare a reçu tout récemment une carte de producteur. Sa plantation a été géolocalisée. Et il suit des formations, notamment auprès d'organismes de certification de durabilité du cacao, comme UTZ. Cela lui permet de comprendre les notions de traçabilité et de mettre en valeur ses productions.
Souvent même, on est à Abidjan avec un UTZ pour des formations pour que nous puissions faire la qualité, et puis la traçabilité, tout ça. Ça nous arrange parce que nous ne voudrions pas nous arrêter seulement aux fèves de cacao. Nous voudrions aller à la transformation. Quand on fait la torréfaction et qu'on fait le décorticage, tout le monde gagne parce que c'est nos femmes même qui font la torréfaction. Et puis on fait tout le décorticage, tout c'est au final à la main. Donc tout le monde travaille et puis chacun gagne son prix.
Les fèves de cacao sont ensuite acheminées dans des coopératives, à l'image d'Ekoya, une petite structure au cœur de Yamoussoukro qui travaille avec plusieurs centaines de producteurs de cacao. Ici, pas d'inquiétude, bien au contraire. Les mesures prises pour établir une chaîne de traçabilité permettent d'organiser et surtout de formaliser les producteurs, selon Léopold Kouadio, le président de cette coopérative.
Nous avons ici environ déjà 300 producteurs qui ont les cartes de producteurs. Ces cartes-là servent à payer les producteurs, c'est-à-dire lorsque nous prenons leurs produits et rapidement nous faisons un versement sur un compte numéro bancaire. Ça a évité beaucoup de pertes parce que généralement les producteurs sont souvent braqués, mais avec les cartes de producteurs, ça va éviter beaucoup de choses. Leur agent sera sécurisé.
L'essentiel de la production de fèves de cacao est exporté à l'étranger. Les entreprises du secteur travaillent avec plusieurs outils numériques pour avoir une cartographie précise des plantations qui les approvisionnent et donc de réduire le risque d'acheter du cacao issu de zones déforestées. Le groupe Nestlé, par exemple, collecte depuis près de 4 ans les points GPS de chaque plantation de cacao, comme l'explique Stéphane De Taille, le responsable du développement durable.
On a la traçabilité de l'ensemble des fermes à qui on travaille sur la Côte d'Ivoire et Ghana. C'est exactement 125 000 fermes qui ont été mappées. C'est-à-dire que vous avez les données polygones qui sont fournies par nos différents partenaires sur le terrain. Et ces données, elles sont mises sur un outil qui nous permet de superposer tous les polygones. Ensuite, on les nettoie, c'est-à-dire qu'on a des polygones qui vont se superposer, on va les cleaner. Ça nous permet d'avoir finalement un mapping à jour et cohérent.
Autre outil à leur disposition, la carte d'occupation des sols élaborée par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Selon cette carte, le couvert forestier représente 17% des sols. Le gouvernement encourage les cacaoculteurs installés dans les forêts classées à pratiquer l'agroforesterie. Il s'agit notamment de planter des arbres fruitiers dans les plantations de cacao. Le Conseil Café Cacao fournit les plans aux producteurs qui doivent ensuite planter entre 25 et 40 arbres par hectare. Kobenan Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture.
Sur les 1 million de personnes, il y a seulement 15% qui sont dans les forêts classées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régulariser cette situation? Le Conseil Café Cacao a mis en place une politique de reforestation à travers donc des pépinières qui ont été mises en place et qui sont distribuées aux producteurs qui sont dans les zones réservées pour en faire de l'agroforesterie. Donc, en plantant des arbres dans les parcelles de cacao, c'est sûr que il y a une protection qui va être constatée.
De manière générale, d'ici 2030, la Côte d'Ivoire s'est fixée comme objectif de reboiser près de 100 000 hectares chaque année.
Un reportage de notre correspondante à Abidjan, Binta Diagne.
RFI Midi, un monde de tech.
Un monde de tech. Bonjour Dominique Dezonné.
Bonjour Nemo.
La Commission européenne doit clarifier les interdictions liées au développement des programmes de l'intelligence artificielle au sein des pays de l'UE. Un texte qui, selon les participants de la consultation publique en ligne lancée il y a deux semaines, laisserait de nombreuses questions sans réponse. Et Dominique, Bruxelles prévoit de publier ses lignes directrices dès février prochain. Objectif, rendre les dispositions de la loi européenne plus lisibles.
Oui, les menaces qualifiées dans le texte européen de minimales concerne les systèmes IA utilisés dans les jeux vidéo ou les filtres anti-spam par exemple. Viennent ensuite les programmes qui permettent de générer ou de manipuler des images, du son ou des vidéos sur les réseaux sociaux notamment. Le risque élevé s'adresse aux dispositifs employés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du recrutement, de la gestion d'infrastructures critiques, du maintien de l'ordre ou encore de la justice. Et en tête de liste, nous trouvons les risques inacceptables qui portent atteinte à la dignité humaine, la démocratie ou l'état de droit, comme les systèmes d'identification biométrique associée à la reconnaissance faciale dans des zones accessibles au public.
Cette consultation publique en ligne, j'en parlais, elle court jusqu'au 11 décembre et elle devrait permettre aux parties prenantes de spécifier des exemples de systèmes qui devraient ou pas être interdit dans l'UE.
Effectivement, la Commission, à son issue, prévoit d'ailleurs de publier ses lignes directrices le 2 février 2025, qui aideront les autorités nationales compétentes ainsi que les fournisseurs et les concepteurs de programmes à mettre en place le nouveau règlement. Et c'est là où le bât blesse. Les interdictions figurant dans le texte européen sont pleines de formulations alambiquées et d'exceptions problématiques, remarque Jean-Gabriel Ganassia, expert en IA, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne et à l'Institut universitaire de France.
C'est une loi d'une telle complexité que nul n'est capable de la comprendre. Elle se fonde sur le risque. D'abord, c'est un premier problème, car le risque, c'est l'anticipation des dangers. Or, l'intelligence artificielle est en grande partie imprédictible. Alors prenons par exemple les risques faibles, c'est-à-dire qu'ils ne conduisent à aucune interdiction, les filtres à spam. Il est important de savoir sur quels critères ces filtres vont fonctionner, car c'est une forme de censure. Et là, c'est dommage, on aimerait plus de transparence. Cette législation est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et je ne suis pas certain, bien sûr, qu'on y parviendra dans les années qui viennent.
Ces dilemmes éthiques posés par cette nouvelle technologie qui seront au cœur des débats ce mercredi de la nouvelle édition du Sophia Summit.
Oui, organisée par la technopole européenne Sophia Antipolis, située sur la Côte d'Azur en France, Jean-Gabriel Ganassia reviendra sur les grands enjeux de cette régulation dans le développement des algorithmes afin que cette technologie n'empiète pas sur les libertés individuelles. Par ailleurs, rappelons que l'Union européenne est franchement à la traîne dans ses investissements sur l'IA. La plupart des firmes de la Big Tech, mais aussi de nombreux jeunes pousses dans l'UE, appellent le vieux continent à se ressaisir s'il veut rivaliser avec les entreprises chinoises ou les géants de la Silicon Valley.
Merci Dominique Dezonné. On se dit à demain pour un nouveau monde de tech.
RFI Midi.
Tonton Cabella Bou.
Du monde de la tech au monde de la culture, deux univers qui s'entrechoquent parfois. Lui a choisi de rester authentique dans son art. Tonton Kabeya, né en République démocratique du Congo, qui vit désormais depuis presque 10 ans en Afrique du Sud. Pour la première fois de sa carrière, il expose à la Biennale de l'art africain de Dakar où il présente Kassala Inner City Blues, une ville miniature avec sur les hauteurs des immeubles du monde entier et plus bas de petits personnages qui continuent à vivre leur vie. Tonton Kabeya, au micro de Juliette Dubois.
Bonjour, alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre carrière d'artiste a commencé ?
Moi j'étais entre le dessin, le bricolage et les sports, donc je commençais avec le basket depuis tout jeune. Je viens d'une famille de sportifs, donc le basket avec le rêve de tous les jeunes du monde, peut-être aller jouer une fois en NBA. Malheureusement pour moi ça n'a pas marché, ça a beaucoup tardé d'ailleurs. Donc du coup voilà, j'étais assez bon dans le basket et l'art. Donc du coup l'art a pris sa prometté quoi pour le futur et je commence à voyager d'ailleurs. Ce que j'attendais avec le basket, c'est voyager, trouver des opportunités en Angola ou n'importe où dans le monde. Avec l'art, ça me donnait tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas s'accrocher ? Alors c'était mes débuts d'aventure, quoi.
Vous vivez depuis 10 ans en Afrique du Sud. Pourquoi ce choix d'expatriation ?
Il y a encore des artistes au Congo qui sont bien installés, qui voyagent, qui bougent. Mais moi, je pense que c'est cette idée d'aller vers l'autre qui m'intéressait. Comme j'aime voyager, puis découvrir, me faire évoluer, par les échanges en habitant chez l'autre. Alors ça, c'était intéressant pour moi que de rester au pays. Alors, contrairement à mes amis artistes qui sont partis en Europe, moi, j'ai décidé l'Afrique, quoi.
Et alors, comment est-ce que votre vie à Johannesburg vous inspire dans votre travail d'artiste ?
L'Afrique du Sud m'a beaucoup influencé, surtout sur le côté social. L'Afrique du Sud a une infrastructure assez développée. On a, par exemple, ce qu'on appelle le complexe. Le complexe, c'est des bâtiments où beaucoup de familles vivent. Ça peut aller jusqu'à 300 appartements. Donc, c'est aussi le réseau social qui existe aujourd'hui, où on peut facilement avoir des amis dans le monde qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne rencontrera jamais, alors que dans ces complexes, ils pourraient avoir un potentiel partenaire de business ou d'amitié, mais on s'intéresse beaucoup au réseau social. Donc du coup, c'était ça qui m'a poussé à créer cette œuvre au départ.
Alors là, on est devant une très belle œuvre, une installation très complexe avec des façades défoncées et des enseignes de commerce mexicains, éthiopiens ou encore israéliens. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ?
Je me sentais un peu uncomfortable que de parler d'Afrique qui ne va pas. Je pense que le monde entier ne va pas, quoi, ne va pas bien. Je m'étais dit que pourquoi ne pas faire quelque chose d'assez universel, d'assez global, parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, au Congo, c'est la même réalité en Amérique du Sud, aux États-Unis, en France, partout dans le monde. C'est pour ça que l'œuvre est devenue très complexe. Alors, je commençais à intégrer des designs de fenêtres qui sont typiques sud-américains ou grecs ou arabes.
C'est votre première biennale de Dakar. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être exposé ici aujourd'hui ?
C'est les plateformes les plus importantes en Afrique, je crois. Être ici, je crois, c'est déjà une façon pour moi de me sentir bien dans le sens où mon travail est reconnu sur le plan continental. Parce que voilà, il y a des grands noms qui sont passés à la Biennale de Dakar, que j'ai admiré. Certains étaient même mes mentors. Et être là aujourd'hui, je pense que c'est un pas vers l'avant. Et voilà, il y a encore beaucoup à faire. Mais Dakar, c'est un passage important pour tout jeune artiste du continent, mais aussi de la diaspora.
Merci beaucoup, Tonton Kabeya.
Tonton Kabeya, avec Juliette Dubois, notre correspondante à Dakar. L'Afrique et son actualité, elles reviennent dans une grosse demi-heure sur RFI. Afrique Midi avec vous, Nicolas Sûr. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nemo.
Et à la une.
La crise post-électorale au Mozambique. Le président sortant Felipe Nyusi convoque cet après-midi les quatre candidats à la présidentielle très contestés. Pas sûr toutefois que cette rencontre ait lieu, car chacun a ses exigences. Et puis au Sénégal, les douanes annoncent avoir saisi plus de 230 kilos de cocaïne pure à Koungheul. Au cours des 12 derniers mois, ce sont 2 tonnes de drogue qui ont été découvertes sur ce même axe entre Dakar et Kidira à la frontière malienne.
Afrique Midi, rendez-vous à 12h30, temps universel, Nicolas. Dans 3 petites minutes, le retour de l'actualité internationale avec le journal de Frôle Laurent Guignard. Juste avant cela, on lance Clara Luciani avec son titre « Tout pour moi ».
Qu'un grain de poussière sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
parmi les mers.